Ok, merci. Bon, merci aux organisateurs pour m'avoir invité. Merci surtout pour m'avoir mis dans ce panel. Donc après, surtout l'exposé de Maria, parce qu'elle a fait un peu la théorie de ce que maintenant je vais traiter d'un point de vue plus historique, empirique. Donc vous pouvez vous relaxer, hein, ça ne va pas être difficile, il n'y aura pas beaucoup de concepts. Ça. Bon, donc je partirai de cet événement qui a lieu au milieu du XVIIIe siècle, plus précisément au milieu des années 1750, et qui concerne le fait qu'à un certain moment, tout le monde commence à s'intéresser à la population. Entre 1953 et 1956, on assiste effectivement à la dissémination massive et fulgurante du mot même de population, un mot qui était tombé hors d'usage en fin du Moyen-Âge. D'abord chez des économistes qui ne sont pas des physiocrates, hein, Forbonnet, Herbert, Plumard de Dangeux, mais aussi chez toute une série de pamphlétaires, d'écrivains, des moralistes comme l'abbé Coyer, Ange Goudat, et puis surtout Mirabeau, le père du révolutionnaire, qui écrit un livre qui s'appelle « L'ami des hommes, traité de la population », où il fait de la population son idole. Donc à la fin des années 1750, on trouve déjà un certain d'ouvrages en français qui utilisent donc les mots de population, et puis l'explosion bibliographique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle est énorme. À la fin du XVIIIe siècle, plus de 1900 ouvrages qui parlent des problèmes d'économie et de population. Donc on pourrait peut-être avoir une idée de cette explosion discursive si l'on l'associe au débat qui a lieu aujourd'hui sur l'écologie, sur le développement durable, sur toutes ces questions. Toutefois, les historiens des sciences savent que l'apparition d'une innovation lexicale ne correspond pas forcément au dépassement d'un seuil épistémologique ou à la formation d'un nouveau concept. Un néologisme peut recouvrir un vieux concept ou un nouveau concept peut se présenter sous un vieux mot et ne témoigne pas nécessairement d'une transformation réelle des savoirs. Si vous posez la question des historiens de la science démographique en particulier, ils vous répondront que les premières techniques de comptage et d'estimation du nombre des hommes remontent au moins au XVIIe siècle, donc bien avant cette explosion discursive. Et le XVIIIe siècle, par contre, ne semble pas inventer un nouveau savoir sur la population, au moins jusqu'à la diffusion des méthodes probabilistes vers la fin du siècle. Donc les transformations qui ont lieu au niveau épistémologique relèvent des effets de l'émergence du concept de population et n'expliquent pas comment la population, à un certain moment, est devenue un problème. Dans son cours récemment publié, Foucault, justement, on évoque l'insuffisance des instruments d'analyse historique donnés par l'épistémologie, car on ne peut pas faire l'histoire du partage entre les vrais et les faux sans parler de la volonté des vérités et de ses effets politiques. On glisse, en somme, de l'a priori historique du savoir sur la population, ce que l'on pourrait appeler un a priori politique historique, reculé dans les temps. Et voyez qu'en ce qui concerne la population, tout indique en effet que les fonds à partir duquel se développe un certain nombre de savoirs est en réalité un certain exercice de pouvoir, comme le montre d'ailleurs la problématisation du nombre des hommes comme force de l'État, déjà chez Bodin et Bottero. Mais vous retrouverez aussi dans la politique du XVIIe siècle toute une série de mesures visant l'augmentation du nombre, la taille des familles, recensement, primo mariage, éducation des familles, intervention sur les mœurs et l'opinion. Or, je ne vous apprends rien de nouveau en disant que Foucault montre que les concepts de population apparaissent en revanche à l'intérieur d'une technologie gouvernementale nouvelle, le libéralisme, où la population fonctionne comme l'image d'une nature qui va permettre l'autolimitation interne du gouvernement et se présente en main tombe comme un objet connaissable scientifiquement par un savoir qui se détache de l'ensemble des dispositions pratiques du vieil art de gouverner et se présente désormais comme un guide externe, objectif du politique. Les concepts de population seraient en somme une entité fictive, définissant le niveau de pertinence d'une nouvelle stratégie gouvernementale qui va ouvrir de nouveaux champs d'investigation. C'est la question qui a été déjà traitée par Paolo Napoli et par Maria Sebata. Toutefois, l'interprétation de Foucault n'est pas convaincante, d'abord pour une raison historique. Car en se concentrant sur l'économie et les physiocrates, Foucault saisit sans doute une transformation essentielle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'obtenir une augmentation du nombre des hommes par des mesures volontaristes, mais une sorte d'adéquation réciproque entre la population et les flux de richesses qui doit circuler le plus possible. Avènement donc de cette nouvelle rationalité gouvernementale avec les physiocrates, selon Foucault. Cependant, Foucault ne semblait pas se rendre compte que Quesnay et les physiocrates arrivent presque à la fin de cette explosion discursive dont je vous parlais, et ne font que donner une réponse économique à une problématisation beaucoup plus large qui touche au rapport entre reproduction et population dans un sens moral. Je pense par exemple au débat souterrain entre Condorcet et Diderot. Pour les premiers, la nature de la population qui commence à opposer l'intervention de l'État est en lien direct avec la morale utilitaire de l'individu calculant son intérêt et décidant du nombre d'enfants selon ses conditions de vie. Pour Diderot, la nature de la population exprime un projet de société. Elle conteste l'origine juridique de la société pour en appeler une organisation de mœurs. La population, au sens de propagation, est la fin même de société, écrit Diderot, et toute morale qui contredit est dangereuse. Ensemble, il me semble que Foucault ne saisit pas la multiplicité des projets de gouvernement qui se dessinent autour de l'objet population, ni l'ampleur de cette explosion discursive. C'est la raison pour laquelle je propose de mettre entre parenthèses cette approche par la gouvernementalité et d'utiliser une autre notion dont Foucault donne une définition très précise, toujours dans ses derniers cours sur la volonté, le sens sur la volonté de savoir. C'est la notion d'événement discursif. Qu'est-ce que c'est un événement discursif ? Ce n'est pas un atome insécable, dit Foucault, mais une multiplicité d'énoncés dispersés sur des coordonnées temporales et spatiales. Un événement discursif, dit Foucault, est polycéphale. Or, cette multiplicité se traduit pratiquement dans la polysémie du mot même. Et si en effet on regarde un peu mieux à ces mots des populations, nous réalisons assez vite qu'il s'agit d'un terme équivoque, et donc l'équivocité, dirait Bertrand Binoche, est gage de sa diffusion. Le champ sémantique du mot population du XVIIIe siècle est beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui. Il indique à la fois le nombre des hommes, sa mesure objective, mais aussi la multiplication des hommes sur un territoire ou les questions de reproduction. On a en somme une définition passive, la population comme nombre des hommes, force économique, et d'une définition active, la population comme propagation, peuplement, puissance reproductive de la nation. On peut également reconstruire, il me semble-t-il, à partir de cette distinction, un passage que Foucault semble avoir perdu lorsqu'il a déplacé son chantier de l'histoire de la sexualité à celle de la gouvernementalité. C'est le passage entre l'archéologie du dispositif de sexualité qui s'affirmera au XIXe siècle et la problématisation économique de la population, montrant comment on passe de la question de comment obtenir un plus grand nombre de personnes à la question de comment matriser et faire entrer dans un calcul économique la reproduction, comment en somme réguler l'activité sexuelle. C'est bien cette question qui est en jeu encore entre Rousseau et Condorcet, par exemple, sous les effets économiques et politiques de la façon dont chacun fait usage de son propre sexe. Rousseau soutenant que le bon père de famille doit écouter la voix de la nature, en s'abandonnant à l'instinct de reproduction, alors que les gouvernements s'occupent de l'entretien du bien collectif. Condorcet soutenant que les hommes arriveront enfin à maîtriser l'acte de la procréation presque insensiblement, et que la régulation entre nombre et richesse se fera en quelque sorte par une politique inconsciente. C'est encore cette question qui opposera Malthus à Condorcet, à Godwin, encore et puis plus tard Marx à Malthus, jusqu'à Bergson, évoquant dans les deux sources de la morale de la religion la question de la régulation étatique de la population, ou encore le spectre de la surpopulation qui habite certains écrits de Lévi-Strauss. Alors, bien évidemment, il s'agit là des modes de production de discours qui répondent à des règles différentes et qu'il faut replacer chacun dans son contexte. Ce que je voulais souligner, c'est seulement la dispersion spatiale et temporelle de l'événement discursif, qui produit donc un débat philosophique, mais à travers ce débat philosophique aussi des institutions, des modes d'action publique, et enfin des cadres d'action adoptés par les individus et les groupes. Productivité du discours, positivité du pouvoir, on en a parlé déjà dans ce colloque. Cependant, je voudrais me concentrer ici sur un autre aspect qui concerne moins les effets de cet événement discursif et sa ligne évolutive, que ces conditions de possibilité. Je m'appuierai pour cela sur la deuxième définition que Foucault donne de l'événement discursif. Il dit « il n'a pas lieu dans un texte, mais se disperse entre des institutions, des lois, des victoires, des défaites politiques, des revendications, des comportements, des révoltes, des réactions. » C'est-à-dire que l'événement concerne des modes d'appropriation du discours, l'instrumentalisation du discours et la qualification de celui qui tient ce discours dans le contexte d'une lutte, et enfin les effets d'occultation que ce discours exerce sur la lutte qui l'a rendu possible. Principe de l'extériorité, dit Foucault. C'est-à-dire qu'il faut passer hors du texte pour en faire une lecture que Althusser aurait qualifiée de symptomale, pour localiser les luttes, les procédures conflictuelles dont le discours n'est qu'un enjeu. Vous voyez toujours dans ces cours sur la volonté de savoir comment l'archéologie de Foucault, qui jusqu'à là était confinée au texte et au discours, acquiert un épaisseur politique en s'ouvrant à la prise en compte de l'événement historique réel du conflit. L'archéologie devient politique, mais politique non pas parce qu'elle montre les processus de domination à l'œuvre, par exemple dans les mécanismes de médicalisation, réduisant les hommes à des objets. L'archéologie devient politique dans la mesure où elle montre que nous sommes constitués historiquement par la relation des pouvoirs et donc par des luttes et des conflits. Donc, en premier niveau, il n'est pas difficile de découvrir l'enjeu politique de cet événement discursif. En effet, historiquement, le problème de la dépopulation, et même le mot de dépopulation, précède celui des populations. À partir déjà du début du siècle, Vauban, Baudilbert, Fénelon, et enfin vraiment, ce seront les lettres persanes de Montesquieu, déclenchent ces discours de la crise, de la perte d'une France exsangue qui s'y dépeuple. Ce discours est implicitement polémique. Même le simple fait de compter les sujets du souverain, dont on suppose qu'ils ont diminué, signifie contester les rois, lui reprocher de ne pas être un bon pasteur, de négliger son troupeau. Mais ces discours traduisent en même temps ce que Jean-Claude Perrault appelait une angoisse démographique réelle qui s'accroît à fur et à mesure que le discours sur la dépopulation se répand. Alors, s'agit-il d'un aveuglement idéologique? Car nous savons désormais, grâce aux recherches de démographes, que la population réelle de la France continue au contraire d'augmenter pendant tout le XVIIIe siècle. En réalité, si on essaie de forcer les mailles du texte, on peut mettre à jour, je crois, un autre événement, cette fois-ci non discursif. Rousseau et Coyer mentionnent la diffusion extraordinaire de l'art de tromper la nature, au sein même du mariage. D'autres parlent des calculs politiques de cette funeste économie des couples qui limite le nombre d'enfants dans la famille. Les mêmes ouvrages qui transmettent les mots des populations à partir du milieu des années 750 diffusent l'idée d'une dépopulation des campagnes due à l'art de tromper la nature. Il y a là l'apparition dans les discours économiques et politiques d'un phénomène bien connu par les historiens et les démographes que je résumerai avec les mots mêmes de Foucault au cours d'un entretien. Foucault dit « La manière dont s'est opéré le contrôle des naissances dans la vie sexuelle des Occidentaux est encore très énigmatique. Nous savons maintenant que dans le sud de la France et dans les campagnes, on pratiquait systématiquement le contrôle des naissances depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cela, c'est un événement. » En quoi cela ça doit être un événement? Car on est encore une fois dans le cas d'une pratique très ancienne. Les moyens pour le contrôle des naissances, dont le plus célèbre et sans doute le plus diffus était les coïts interrompus, existaient bien avant le XVIIIe siècle, et on pourrait sans doute dire qu'ils ont eu une histoire assez glorieuse dans les milieux libertins de la prostitution. Mais la vraie nouveauté, c'est que désormais ces moyens sont utilisés dans la famille, et non plus pour éviter tout risque de grossesse, mais pour limiter le nombre d'enfants. L'essence de l'usage d'une technique change complètement. Et on pourrait parler à ce propos d'un bouleversement anthropologique majeur. Or, cet événement provoque un scandale qui va bien au-delà du pur reflet idéologique, dans la mesure où ça va être un discours positif qui produit. C'est la découverte que ces comportements contre nature, se diffusant même chez les derniers des paysans, qu'on estimait incapable de penser, inapte à tout calcul de sa descendance, complètement abandonné en nature qui le détermine complètement, c'est la découverte que ces comportements sont habités par un passé. Dans la mesure où ces pratiques étaient susceptibles de se propager à toute la population, les rapports du nombre à la reproduction devaient être pensés à nouveau frais. À mon sens, il faut donc voir dans la perception, d'ailleurs plus supposée que réelle, de la généralisation du contrôle des naissances, l'événement qui a transformé l'urgence de la dépopulation dans l'émergence de la population. Foucault, qui a parlé du couple malthusien comme une des figures stratégiques du dispositif de sexualité au XIXe siècle, a, me semble-t-il, sous-évalué l'importance de cette émergence. Mais pourquoi déjà parler d'émergence? Foucault utilise beaucoup le terme, mais j'ai cherché plutôt en vain chez lui, comme chez les Foucauldiens, une définition convaincante d'émergence. Je l'ai trouvé, par contre, chez les physiciens, qui parlent d'émergence lorsque, à fur et à mesure que les systèmes acquièrent des degrés de plus en plus élevés des complexités organisationnelles, ils présentent de nouvelles propriétés, dont l'existence ne peut être prédite à partir des lois gouvernant les systèmes plus simples. C'est-à-dire qu'une émergence n'est ni une invention ex nihilo, ni une découverte de quelque chose qui était déjà là. L'émergence indique l'apparition d'une nouveauté radicale qui va transformer en même temps la chose et le point de vue sur la chose, au point qu'on a désormais besoin de renommer la chose même. Nous avons vu que la question du nombre des hommes et de son augmentation comme source de la puissance souveraine avait déjà été posée. Mais la problématisation théorique et pratique, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ne touchait pas ce qu'on appelait à l'époque le domaine de la génération. Comme Thomas Laker l'a montré dans son livre sur la fabrique du sexe, les concepts de génération suggéraient une répétition quotidienne de l'acte divin de la création. Une fois les époux mariés, Dieu décidait du nombre d'enfants. En revanche, à partir du milieu du XVIIIe siècle, dans les discours scientifiques et économiques, on ne parle plus du nombre des hommes ou de la génération, on parle plutôt des populations en reproduction. Et ce dernier concept a d'emblée des connotations moins miraculeuses et plus mécanistes. Il suggère la possibilité d'une intervention réglée. Là encore, on n'a pas une réelle avancée scientifique, car les mystères sur le fonctionnement de la reproduction humaine restent intégrales, encore en 67. Voltaire se moquera de toutes ses disputes sur l'enfantement, se terminant toujours dans les doutes. S'il est possible d'intervenir sur la reproduction, ce sera par contre désormais en passant par la maîtrise volontaire que les femmes et les hommes exercent sur des naissances, en agissant en quelque sorte sur des volontés. La famille devient alors, pour une transformation historique enregistrée par Rousseau, une instance de régulation de la population et le lieu non plus normal, mais normatif de la reproduction. Autrement dit, ces nouveaux comportements contraceptifs, au sein même des familles, vont changer le sens de la reproduction et la façon dont on pense la population. Cette dernière, dans sa taille, dans ses dynamiques internes, ne ressemble plus à une instance se réglant automatiquement sur la subsistance, selon la volonté divine, mais elle apparaît comme un sujet, du fait qu'elle est traversée par des décisions. Et si on gagne quelque chose de l'approche foucauldienne, c'est justement que lui, il a pensé la population comme ce nouveau personnage, justement parce qu'elle n'est pas une simple collection sérielle d'individus comptables, objectivables, mais un ensemble de comportements, habités d'une volonté, habités d'une réflexivité, on pourrait dire. Alors, naturellement, à la fin de ce parcours assez schématique, on pourrait m'objecter à quoi bon ? À quoi bon pratiquer une sorte d'histoire des émergences qui ressemble vaguement à une histoire sociologisante où il n'est plus question de la grande pensée des philosophes, mais plutôt de la petite pensée de ceux qui ne sont pas payés pour penser, comme dirait Rancière. La réponse est dans l'interprétation sans doute partisan, sinon erronée, que je donne de l'expression « ontologie historique de nous-mêmes ». Pour ontologie, je n'entends ni la reprise fondamentale de la question de l'être chez Heidegger, ni la question de la production chez Spinoza, mais selon un sens qui était encore en usage du XVIIe siècle, une sorte de science des objets. Ce que j'ai appris de Foucault, et la raison pour laquelle je me décris comme un usager de Foucault, c'est que la pratique philosophique peut s'exercer dans notre présent à partir d'objets très précis, peut-être humbles, minuscules, invisibles. Vous en avez vu, la brochure de Philippe Artière, le milieu de Ferrat, les poulets grippés de Frédéric Keck. Mais ces objets, ils sont et moi chargés de pensées et de théories pour en faire, et donc on peut faire de ces objets les prismes au miroir duquel étudier la construction des concepts. Il y a là, à mon avis, l'héritage canguilhémien sur Foucault, c'est-à-dire l'héritage de son idée selon laquelle pour la philosophie toute matière étrangère est bonne. Mais cette ontologie est historique. Historique dans le sens que cette science des objets présents, ou cette diagnostic du présent, est pour moi indissociable de la reconstruction historique des agencements pragmatiques par lesquels certains événements de pensée suscitent la production de nouveaux concepts et en retour la façon dont ces concepts structurent l'expérience même des hommes et des femmes. Enfin, l'ontologie historique de nous-mêmes. De nous-mêmes pourquoi ? Car cette analyse des émergences prend l'essence, je cite Foucault là, d'une enquête historique à travers les événements qui nous ont amenés à nous constituer, à nous reconnaître comme sujet de ce que nous faisons, pensons, disons. À mon sens, donc, un travail critique sur les normes qui nous constituent ne peut pas se limiter à prescrire des formes de déconstruction ou de transgression, mais doit d'abord montrer que ces normes reposent historiquement sur des décisions fragiles, sur des événements insoupçonnés, imprévisibles, et que puisqu'elles ont été produites par nous, puisqu'elles reposent sur notre puissance d'agir, elles peuvent également être défaites. De là la nécessité de pratiquer une histoire qui prend le risque de se transformer en fiction, hein, car son but n'est pas l'objectivité, mais ce sont ses effets d'accroissement de notre puissance d'agir. Or, il est évident qu'une telle ontologie historique de nous-mêmes a une cible polémique très précise. Ce sont un certain nombre de travaux en histoire des sciences, en biopolitique, montrant comme la vie humaine a été progressivement médicalisée, décrite, insérée par des normes qui finissent par produire des comportements des individus. Car lorsqu'on se situe juste sous le niveau des histoires des sciences, qu'est-ce qu'on voit ? Mais on voit la biopolitique comme un événement massif et unilatéral comportant la domination de plus en plus poussée d'une vie nue, parce qu'on voit seulement la puissance d'information des concepts scientifiques. L'image de la production des normes par un appareil scientifico-politique qui les imposerait ensuite, comme par magie, à des individus soumis, m'a toujours laissé très douteux en ce qu'elle efface les effets des luttes, justement, de l'événement, de négociations, d'interactions, qui sont les différents vecteurs de la construction d'une nouvelle stratégie gouvernementale. Le travail du dernier Foucault était, à mon avis, plus intéressant de ce qu'il montrait comment la subjectivation est contemporanément le résultat d'une relation que nous établissons à nous-mêmes et aux autres, en suggérant la possibilité d'une autre histoire de la biopolitique concernant la production et le partage d'un savoir et d'un pouvoir sur son propre corps et celui des autres. La question du pouvoir sur la vie, par exemple, acquiert une autre signification lorsqu'on la regarde à partir de la possibilité de la donner ou moins, comme le disait tout à l'heure Guillaume Leblanc, jusqu'à partir du moment où la vie va apparaître sous condition. Il est indéniable que la maîtrise sur la reproduction témoigne d'un nouveau pouvoir sur la vie, montrant que ce corps disciplinaire, ce corps redressé, décrit par Vigarello, par exemple, est aussi un corps maîtrisable par les individus mêmes. La contraception, comme l'a souligné la pensée féministe, est une habeas corpus, c'est-à-dire un droit à la maîtrise de son propre corps par les femmes, alors qu'historiquement, ce corps a été l'objet d'une appropriation sociale masculine qui les soumettait à la loi de l'espèce de la reproduction. Voyez alors plus concrètement comment les contrôles de naissance deviennent l'enjeu d'une lutte silencieuse, infrapolitique, dirait Scott, entre les couples, les pouvoirs publics visant l'accroissement de la population et les philosophes incitant le peuple à s'abandonner au cri de la nature. Il y a là ce qu'on appellerait une archéologie de biopolitique. C'est-à-dire que si on prend les choses du point de vue historique et critique, il faut concevoir l'essor de la biopolitique même à partir de ces conflits, selon la logique de description, cette fois-ci, des émergences qui donne Foucault en mentionnant dans son étude sur Nietzsche. Bon, évidemment, il faudra attendre les anarchistes, c'est-à-dire un siècle plus tard, à la fin du XIXe siècle, pour que cette lutte devienne explicitement politique, qu'elle soit revendiquée en tant qu'arme contre anticapitaliste et devienne l'objet d'une propagande anti-étatique. Toutefois, lorsque nous étudions la modernité à travers ce filtre, on peut également relever, me semble-t-il, la leçon d'une profonde ambiguïté de ces nouveaux pouvoirs sur la vie dans le XVIIIe siècle et voit les jours. C'est la raison pour laquelle il faut se garder, je crois, d'interpréter cette nouvelle circulation des savoirs et des pouvoirs d'en bas, comme s'il s'agissait nécessairement de résistances qui sont toujours opposées au pouvoir. La pensée féministe nous a mis en garde par rapport à l'idée naïve qui fait de la contraception médicalisée une conquête des femmes assurant automatiquement leur libération. Force est de constater que même la légalisation de la contraception médicalisée n'a pas remis en cause la division du travail, productive et reproductive, dans notre organisation sociale, mais l'a au contraire stabilisé la fondation de l'identité féminine sous le rôle des mères. On pourrait dire la même chose d'un point de vue historique. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge cette figure du couple malthusien, non plus comme le lieu d'une expérience homogène, mais à partir des investissements conflictuels des hommes et des femmes dans les discours et les pratiques de la sexualité, l'on voit bien que le contrôle des naissances soit fait toujours beaucoup pour l'initiative des femmes, pour limiter le nombre de grossesses qui mettaient en péril leur vie, l'acte même du coït interrompu représente une ultérieure prise de pouvoir masculine sur l'univers des naissances. Au sens large, l'essor de la contraception montre la fragilité historique donc, du complexe sexe-nature-reproduction, mais il n'a pas bouleversé complètement, d'un moment à l'autre, les logiques normatives sous-tendant les rapports des genres au sein même du couple. Vous voyez aussi que lorsque cette pratique est devenue centrale dans les dispositifs de sexualité au XIXe siècle, et surtout au XXe, lorsqu'elle était médicalisée, la contraception était aussi l'occasion d'une sexualisation des corps, étant très constitutif du gouvernement des populations. L'injonction à la contraception a fonctionné non seulement dans le contexte colonial, comme une manière de différencier les populations, et d'imposant aux femmes de différentes couches sociales ou d'une race infériorisée un choix différentiel par rapport à la reproduction. La contraception a pu ainsi être l'instrument des politiques racistes ou d'une eugénique positive visant l'amélioration qualitative de la population jusqu'à l'hypocrisie des politiques démographiques contemporaines, obligeant les pays en voie de développement à ne pas suivre les mêmes modèles populationnistes qui a conduit à la suprématie des colonisateurs à cause d'une surpopulation mondiale dont le premier monde ne voudrait surtout pas payer les frais. Je ne crois pas que cette ambiguïté soit le résultat d'une sorte de récupération par l'appareil médical étatique d'un pouvoir sur la vie qui était à son origine libératoire. Je pense que cette ambiguïté est en effet même de l'approche. Les comportements contraceptifs sont apparus pendant longtemps, pour les historiennes, comme des pratiques sans théorie, adoptées par des individus qui simplement répercutaient les bouleversements économiques et climatiques. Or, l'ontologie historique et l'analyse des émergences montrent que probablement la théorie n'a pas été vue parce qu'elle n'a pas été cherchée au bon endroit. On a systématiquement sous-évalué la pensée des femmes, mais aussi des classes populaires, dans l'invention d'un nouveau rapport au corps et à la procréation, dans l'invention de nouveaux modes de vie collectifs concernant la façon de donner la vie. C'est pour cette raison que l'ambiguïté relève, à mon sens, un décalage ou une tension entre deux sens du mot « vie » qui fait partie encore de notre contemporanéité. Un sens purement biologique, la vie dans son sens matériel ou physiologique, et le sens de l'expression de ce qu'on appelle au XVIIIe siècle les modes de vie ou les façons de vivre. Dans la mesure où ces modes de vie impliquent des habitudes, des conduites régulières, mais aussi des transformations éthiques et une stylisation de sa propre existence, dont fait partie la prise en compte du fait qu'on est des êtres vivants, c'est-à-dire capables de donner ou de retirer la possibilité de la vie. Si j'ai entrepris une archéologie du couple conceptuel population-contraception, ce que je voulais me rapprocher le plus possible de cette bifurcation dans notre compréhension de ce qu'est la vie. Et pour terminer, pour me référer au l'exposé de Maria, en effet, je voulais montrer que, sans doute, le nouveau pouvoir sur la vie, la biopolitique, imite la vie. Mais seulement à partir du moment où s'ouvre, dans les concepts même de vie, un écart politique entre ce qui est mode de vie et ce qui est vie biologique. Ou encore entre ce qui est organisme, organisation, aurait dit Canguilhem. Merci.